Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue à l'écoute de notre programme. L'actualité de l'Église reste marquée par l'état de santé du pape François, hospitalisé depuis vendredi dernier à l'hôpital Gemelli de Rome. La salle de presse du Saint-Siège a informé vendredi que le Saint-Père a pu se lever et prendre son petit déjeuner, confirmant les informations de la veille sur une légère amélioration de ses conditions de santé. Le quatrième événement thématique du Jubilé de l'Espérance est consacré aux diacres. Du 21 au 23 février, ils seront invités à passer la porte sainte de la basilique Saint-Pierre et à participer à plusieurs rencontres. Vous aurez les détails tout à l'heure dans cette édition, avant de passer à l'actualité sociopolitique sur le continent, marquée essentiellement par la grande crise au Soudan et la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, toujours préoccupante, notamment de la ville d'Uvira au sud Kivu, où la population vit dans la peur face à l'avancée du M23 et de ses alliés rwandais, qui se sont emparés ces dernières semaines de Goma et Bukavu, capitale provinciale du nord Kivu et du sud Kivu. Vous écouterez donc un témoignage sur cette situation de chaos dans cette partie de la République démocratique du Congo, avant de conclure l'édition de notre programme avec notre magazine consacré à l'actualité internationale de la semaine.
Radio Vatican, France et Afrique, Christian Lossambé.
Ouvrons l'actualité de l'Église de cette édition par le point sur l'état de santé du pape François, qui est hospitalisé dans la polyclinique romaine depuis le 14 février. La nuit s'est bien passée, ce matin le pape François s'est levé et a pris son petit déjeuner. Telle est la mise à jour du vendredi 21 février, faite par la salle de presse du Saint-Siège sur l'hospitalisation du Saint-Père. Jeudi soir, le bulletin de santé faisait état d'une légère amélioration du cadre clinique du pape, précisant qu'il est apyrétique et ses paramètres hémodynamiques restent stables. On apprenait par ailleurs que François avait quelques foyers de pneumonie, qu'il continue à respirer de façon autonome et que son cœur va toujours bien. Entre-temps, des messages de proximité et des appels à prier pour la santé du Saint-Père continuent d'affluer un peu partout dans le monde entier. Du vendredi 21 au dimanche 23 février 2025 aura lieu le quatrième des grands événements jubilaires, le jubilé dédié aux diacres qui attirera à Rome plus de 6000 pèlerins en provenance d'une centaine de pays du monde. C'est ce qu'a révélé le communiqué de presse du dicastère pour l'évangélisation rendu public vendredi. 23 d'entre eux recevront l'ordre sacré du diaconat au cours de la messe du dimanche 23 février dans la basilique Saint-Pierre à 9h de Rome. Pour la célébration eucharistique, le Saint-Père a délégué Mgr Rino Fisichella, pro-préfet du dicastère pour l'évangélisation, en raison de son état de santé. Deux des nouveaux diacres sont originaires du Brésil, 6 de Colombie, 1 de France, 3 d'Italie, 3 du Mexique, 2 de Pologne, 3 d'Espagne et 3 des États-Unis, précise le communiqué. Mardi 18 février 2025, les travaux du Conseil permanent de l'Association des conférences épiscopales de la région d'Afrique centrale, ACERAC, ont été lancés à travers une cérémonie au sein du siège de la conférence des évêques du Tchad par le nouveau président de cette association, Mgr Martin Wainge Bani, évêque du diocèse de Doba, par ailleurs président de la conférence des évêques du Tchad. Cette rencontre du conseil permanent de l'ACERAC permet dans un premier temps de faire l'état de lieu des préparatifs de l'organisation en 2026 au Tchad de l'Assemblée générale de cette association, mais aussi de se pencher sur plusieurs sujets liés à la vie de l'Église, mais également à la vie de la société. Plus de détails avec Edouard Takadji.
Dans son intervention, Mgr Antonio Mabiala, secrétaire général de la dite association, a cité le bien fondé de cette rencontre avant de préciser pourquoi le conseil permanent de la CERAC se réunit une fois dans l'année.
Assurer l'application des décisions prises par l'Assemblée plénière, assurer le bon fonctionnement général de l'association, traiter les affaires coulissantes confiées par l'Assemblée plénière et exercer le contrôle sur l'administration des biens et l'exécution des projets établis par l'Assemblée plénière.
Le nouveau président de l'Association des conférences épiscopales de la région d'Afrique centrale, Mgr Martin Wainge Bani, évêque du diocèse de Doba, par ailleurs, président de la conférence des évêques du Tchad, a souligné l'importance de cette rencontre avant de revenir sur les documents du synode de 1994 afin de faire des propositions pour la tenue de la rencontre en 2026 de l'ARCERAC au Tchad.
On a voulu promouvoir la fraternité, la participation, la solidarité et la co-responsabilité dans l'Église à partir des valeurs positives de la famille africaine et bien sûr à la lumière de la Sainte Famille. C'est dans l'esprit aussi de ce synode que nous allons continuer nos réflexions.
Edouard Takadine Diamena pour Radio Vatican.
Toujours en la même date du mardi 18 février, à l'ouverture d'une réunion de la conférence épiscopale soudanaise, le cardinal Stephen Ameyou Martin Moula a souligné la nécessité de s'engager dans l'unité afin de surmonter les défis ensemble et de grandir en tant que communauté ecclésiale. Reconnaissant également que les conflits en cours ainsi que les difficultés d'ordre social et économique nécessitent une réponse vigoureuse de la part des dirigeants de l'Église, le prélat a exhorté les évêques soudanais à travailler ensemble pour faire progresser le développement de l'Église et répondre efficacement aux besoins des communautés locales. Les précisions de Jean-Benoît Harel.
Dans son discours d'ouverture du 18 février, le cardinal Ameyou a souligné que ce n'est que par un effort collectif et un engagement partagé que l'Église dans la région de l'Afrique de l'Est peut répondre efficacement aux besoins pressants et soutenir son peuple en ces temps difficiles. Nous nous réunissons dans un esprit d'unité et de collaboration, reconnaissant le rôle vital que nous jouons dans la pastorale de nos communautés à travers les défis auxquels nous sommes confrontés, a-t-il déclaré, soulignant que les discussions de la réunion devraient se concentrer sur plusieurs initiatives clés qui sont essentielles pour la croissance et la durabilité de l'Église au Soudan et au Soudan du Sud. Le prélat a reconnu que les conflits en cours, les difficultés économiques et les divisions sociales dans les deux pays nécessitent une réponse vigoureuse de la part des dirigeants de l'Église. L'Église n'est pas seulement un phare spirituel, a-t-il fait savoir, mais aussi un acteur essentiel du paysage socio-économique des communautés. S'adressant ainsi aux évêques mardi, l'archevêque de Djouba a souligné que l'Église bénéficie depuis longtemps du soutien de Solidarité Sud-Soudan pour résoudre des problèmes cruciaux. C'est pourquoi, a-t-il ajouté, la formalisation de cette collaboration pourrait aider les responsables de l'Église à assurer un meilleur service aux fidèles, à promouvoir le bien commun dans les communautés confrontées à des défis pressants et à répondre ainsi efficacement aux besoins des communautés locales.
Merci, Jean-Benoît.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Restons au Soudan où le gouvernement de ce pays a rappelé jeudi son ambassadeur au Kenya pour protester contre l'accueil à Nairobi des réunions préparatoires des paramilitaires en guerre contre l'armée nationale depuis bientôt 2 ans en vue de proclamer un gouvernement parallèle. Le ministère des Affaires étrangères a rappelé son représentant pour des consultations en protestation contre le fait que le Kenya accueille les réunions de la milice rebelle et de ses alliés dans un nouveau geste hostile contre le Soudan, a rapporté l'agence de presse officielle SUNA. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est prononcé vendredi sur un texte condamnant pour la première fois directement le Rwanda pour son soutien à l'offensive du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo et réclamant le retrait immédiat de ses troupes du territoire congolais. Le groupe armé anti-gouvernemental M23, qui contrôle désormais de larges pans de cette région riche en ressources naturelles, doit immédiatement cesser les hostilités, se retirer de Goma, Bukavu et toutes les zones contrôlées et mettre un terme aux administrations parallèles qu'il a mises en place sur ces territoires, poursuit le texte. Le nombre d'homicides en Afrique du Sud a baissé de près de 10% entre octobre et décembre 2024, mais reste très élevé et préoccupant, avec une moyenne de 75 par jour, a annoncé vendredi le ministre de la Police. L'Afrique du Sud, qui compte plus de 62 millions d'habitants, a l'un des taux d'homicides par habitant les plus élevés au monde en temps de paix. Entre février 2023 et fin février 2024, 27 621 meurtres avaient ainsi été enregistrés selon les chiffres officiels. Les chiffres de la police pour les 2 trimestres précédents ont également montré une baisse du nombre d'homicides par rapport aux années précédentes. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC est toujours préoccupante. C'est le cas notamment dans la ville d'Uvira au sud Kivu, où la population vit dans la peur. Alors que le M23 serait arrivé à Sangé, à 35 km de la ville à Uvira, des affrontements ont eu lieu ces derniers jours entre des soldats de l'armée congolaise qui veulent fuir et les Wazalendo, des milices pro-gouvernementales, qui veulent récupérer leurs armes avant de les laisser partir. Il y aurait des morts et des blessés, les scènes de pillage sont généralisées, même l'évêché a été pris pour cible jeudi matin, racketté pour de l'argent. Retour sur la situation de chaos dans la ville, avec un de ses habitants qui témoigne anonymement.
C'est depuis le samedi que la psychose est entrée dans la ville d'Ouvira. Les dimanches, c'était difficile d'aller aux églises. Les lundis, ils sont sortis un peu, il y avait un peu d'accalmie. Mais depuis hier, personne n'est sorti. Dans toute la ville, il y a eu des pillages, des magasins, des boutiques qui sont en train d'être pillés par on ne sait pas qui alors, parce que les militaires en profitent, et les Oisalènes en profitent. Donc c'est le chaos qui se généralise au niveau de toute la ville. Aujourd'hui, personne n'est sorti, à tel point que c'est devenu maintenant difficile de s'approvisionner même en vivres, même pour trouver d'autres. Et actuellement, la ville n'a pas du courant, l'eau c'est difficile, donc la vie devient de plus en plus difficile ces derniers temps.
Hier, trois hommes armés ont mis en joue l'évêque d'Ouvira pour obtenir de l'argent. Monseigneur Muyango Mulumbe va bien, mais qui étaient ces hommes ?
Ça nous dépasse un peu parce que les militaires qui font ça, ce sont des militaires qui sont en train de fuir malheureusement depuis la prise de la ville de Bukavu, aussi la prise de la cité de Kamanyola à quelques kilomètres d'Ouvira. Ils ont trouvé une résistance des volontaires de la défense pour la patrie appelés des Oisalendo, des milices pro-gouvernementales qui combattaient avec à côté des FARDC, mais maintenant qui se retournent encore contre les FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo.
Pourquoi est-ce que les Oisalendo se sont retournés aujourd'hui contre les soldats de l'armée régulière qui sont censés quand même être dans leur camp ?
Ces Oisalendo, ils voulaient combattre coûte que coûte. Ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de munitions. Alors, ils voulaient se procurer des armes et des munitions des militaires FARDC. Ils veulent fuir, qu'ils laissent les armes. Alors, c'est que les FARDC aussi n'ont pas accepté, ils n'acceptent pas jusque-là. Alors, il y a toujours des affrontements entre les Oisalendo et les militaires FARDC. Il y a des morts d'hommes, il y a des militaires qui meurent. Il y a aussi des Oisalendo qui meurent dans ces accrochages.
Du coup, les FARDC sont bloqués en ville, si je comprends bien, par les Oisalendo.
Les militaires sont ici, ils ne savent plus où aller parce qu'ils sont coincés. C'est pourquoi ils sont en train de semer cette terreur dans la population. Nous sommes à côté d'eux, ils sont très nombreux. Les militaires, là, ils tirent des balles à n'importe quel moment quand ils veulent. Ils ne reçoivent des ordres de nulle part, alors ils font tout ce qu'ils veulent, il n'y a personne qui les contrôle. Donc c'est une situation qui nous dépasse un peu, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, on ne sait pas ça va aller jusqu'à quand.
Quelle parole aujourd'hui est celle de l'église d'Ouvira qui évidemment vit les événements en cours et qui est appelée à accompagner les fidèles ?
L'église peut nous apporter seulement d'abord la parole du réconfort et aussi de l'espérance jubilaire, mais aussi tout soutien n'importe lequel qui peut toujours réconforter le peuple de Dieu et tout le monde. C'est ce qui est nécessaire pour l'instant parce que on n'a plus où se réfugier, on n'a pas où aller. Dieu seul peut nous sauver, qui peut toucher le cœur de tout un chacun pour une bonne conversion, ainsi de suite.
Si je comprends bien, vous vous en remettez à Dieu?
Bon, parce qu'on dirait que même le gouvernement, il est impuissant même de sauver ce qu'il peut encore sauver. On ne sait pas où nous sommes. Les M23, qui s'appellent actuellement les libérateurs, s'ils venaient, bon, peut-être ça va un peu cesser, mais est-ce que ça sera une solution durable? On ne sait pas encore.
Interrogé par Marie Duhamel, un habitant de la ville d'Ouvira, était l'invité du jour de Radio Vatican. Refermons à présent cette édition avec notre magazine consacré à l'actualité internationale de la semaine. Parole à Fabrice Baguendekere.
Eh bien, partons du continent océanien. Des inquiétudes en Australie après des tirs menés par trois navires de guerre chinois au large de la côte orientale du pays, tandis que la flotte chinoise avait prévenu les autorités australiennes qu'elle pourrait effectuer des exercices avec des tirs à balles réelles et que les navires et les avions devaient se tenir à l'écart, a indiqué le premier ministre australien Anthony Albanese, qui est intervenu pour dissiper la psychose.
Il a également indiqué qu'il n'y avait pas eu de risque imminent de danger pour les entités australiennes ou néo-zélandaises. Pékin a assuré mener des manœuvres légitimes en toute sécurité. L'exercice est mené du début à la fin de manière sûre et professionnelle. Il est conforme au droit international et aux pratiques internationales, a indiqué Guo Jiakun, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Sur le continent asiatique, en pleine reconstruction après le conflit dévastateur qui avait marqué leur pays, les Syriens continuent de vivre les conséquences des sanctions économiques qui avaient été infligées à leur pays, affectant leur quotidien et leurs perspectives d'avenir. Depuis plus de 10 ans, la Syrie est confrontée à des sanctions économiques internationales qui ont isolé le pays sur le plan financier et commercial. Reportage à Damas de Mohamed Erami.
Dans l'espoir d'un jour meilleur, Moa Zamoui, la quarantaine passée, ouvre son restaurant populaire dans le quartier de Mezzeh à Damas, la capitale syrienne, espérant pouvoir vendre ses plats et repas prêts à emporter et rentrer chez lui avec quelques provisions et de l'argent. Moa explique que cela fait plus de 10 ans qu'il vit ainsi, en raison de sanctions économiques imposées à la Syrie, qui ont transformé le pays en un état économiquement isolé du reste du monde.
Auparavant, nous étions capables de vendre et d'acheter car la Syrie connaissait un grand afflux de visiteurs étrangers, notamment en provenance des pays du Golfe arabe et des pays européens. Ils avaient de l'argent à dépenser, y compris en dollars.
La situation de Moaz est similaire à celle de millions de Syriens qui ont été frappés par des sanctions économiques en raison des violations des droits de l'homme par le régime précédent. Selon le professeur d'économie à l'université de Damas, Ali El-Sayed, les principales sanctions incluent l'interdiction commerciale, l'embargo pétrolier, l'interdiction des transactions financières et les restrictions de voyage.
Le peuple syrien ne doit pas être puni pour les erreurs du régime précédent. Il a le droit de voir des résultats positifs. Et la nouvelle administration doit faire preuve d'une grande transparence envers la communauté internationale.
L'économie syrienne a connu un déclin majeur en 2020 après que les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions sévères connues sous le nom de « loi César » qui comprenaient un gel des actifs et l'interdiction des échanges commerciaux avec les pays du monde entier.
Dimanche 23 février, la date des élections allemandes est gravée depuis longtemps dans les esprits des responsables européens, impatients de remettre le continent en ordre de marche face à la ribambelle des crises qu'il affronte. Nous avons parfois peur du leadership allemand, a glissé un diplomate européen. Mais il est difficile de vivre sans eux, a-t-il poursuivi, illustrant l'empressement des dirigeants à Bruxelles à être fixés sur les résultats du scrutin. Après une longue instabilité politique en France, plusieurs mois de flottement au sommet de l'exécutif européen, c'est désormais au tour de l'Allemagne d'être en retrait des tractations en raison de ces élections, ce avec les menaces de Donald Trump et la guerre en Ukraine dont les rebondissements donnent des sueurs froides à de nombreux Européens et le besoin urgent de relancer la compétitivité sur le continent. Et concernant la tension entre les 27 et Washington sur la résolution du conflit en Ukraine, les pays de l'Union européenne se sentent mis à l'écart des négociations de paix tenues par seuls les États-Unis et la Russie, des négociations qui se sont faites également et surtout en l'absence de Kiev. Une réunion de travail avait toutefois eu jeudi entre le président ukrainien et l'envoyé spécial des États-Unis, mais, nouvelle illustration des tensions, il n'y a pas eu de déclaration après cette rencontre. Plus de détails avec Jean-Benoît Harel.
La conférence de presse commune a été annulée hier soir à la demande des Américains, selon la présidence américaine. L'envoyé de Donald Trump, Keith Kellogg, arrivé en Ukraine mercredi matin, avait assuré comprendre le besoin de, je le cite, « garantie de sécurité de l'Ukraine ». Une position beaucoup plus conciliante que celle du président américain qui échange depuis mardi des attaques personnelles avec son homologue ukrainien, tandis que le Kremlin, lui, se réjouit de pouvoir reprendre le dialogue avec les États-Unis. De leur côté, les alliés européens, qui tentent d'exister dans le chemin vers la résolution du conflit, se sont insurgés de cette position américaine, faisant savoir par le porte-parole de la Commission européenne que l'Ukraine est une démocratie, contrairement à la Russie de Poutine. Alors quelle est la véritable intention de Donald Trump? Nul ne peut le dire. On assure au sein de la présidence ukrainienne vouloir la paix, mais pas au prix de l'humiliation. Toujours est-il que Zelensky se retrouve ainsi assommé par son allié américain, alors que sur le terrain, les Ukrainiens continuent à subir les bombardements de l'aviation russe. Hier, au moins 4 morts ont été à déplorer dans la région orientale de Donetsk.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici, très chers auditeurs, que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du programme Français-Afrique de Radio Vatican, Christian Lossambé qui vous l'a présenté, vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes. Milele na milele, Mungu wangu wewe.